Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. La Grange. Vous connaissez le télescope spatial James Webb ? Il est plus connu sous le sigle JWST. C'est un beau bébé, le JWST. 21 mètres de long, 14 de large et 8 de haut. Et tout ça pour la masse d'environ 6 tonnes de sang. Il a été lancé le 25 décembre 2021 par une fusée Ariane 5. Bel engin aussi cette fusée. Il faudra que je vous raconte un jour comment j'en ai récupéré une pour en faire une catapulte orbitale. Pour en revenir au JWST, il est arrivé à destination le 24 janvier 2022. Il n'a pas été lancé comme ça, au pif. Il devait se rendre sur un point bien précis. Un point Lagrange. Le L2, précisément. Mais alors, vous allez me dire, c'est quoi un point Lagrange ? Pour faire simple, c'est un point fixe dans l'espace par rapport à la Terre. Il va toujours rester au même endroit dans le ciel terrestre, quelle que soit la position de la Terre par rapport au Soleil. Pour le trouver, c'est simple. Vous tracez une ligne droite qui passe par le centre du Soleil et le centre de la Terre. Une fois passé la Terre, vous avancez d'environ 1,5 million de kilomètres et vous y êtes. Ça donne environ 5 fois la distance Terre-Lune. Bon, ça, c'est la théorie, parce que dans les faits, une fois le télescope en position, on s'est rendu compte qu'il bougeait. On est d'accord, il bouge de toute façon. Comme la Terre bouge autour du Soleil aux alentours de 100 000 km par heure. Mais normalement, le point Lagrange est stable. Certes, le mouvement était léger, mais pour prendre des photos, il ne faut pas bouger. Et au vu des relevés, il a tendance à tourner autour du point. Or, dans l'espace, on ne tourne pas autour d'un point. Sauf s'il y a autre chose qui vous fait tourner autour du dit point. Un peu comme quand on danse une valse, on tourne autour d'un axe et pas sur un axe. Parce que le ou la partenaire en face de vous vous fait tourner des forces équilibres. Mais oui, il y a forcément un mais, le télescope était le premier engin envoyé sur le point Lagrange. Vous pourrez me rétorquer qu'une nation aurait pu envoyer discrètement un satellite sur ce point. Ce à quoi je vous répondrai que ça se serait vu, la trajectoire pour y envoyer quoi que ce soit est vraiment particulière et donc identifiable très rapidement. Bon, il y a un truc sur le point Lagrange L2, mais personne ne sait ce que c'est. Un détail va épaissir encore le mystère. Après calcul, il a été établi que l'objet inconnu qui occupe le point Lagrange est massif. Pour pouvoir faire bouger un objet de 6 tonnes, même dans l'espace, il faut que le « partenaire de valse » entre guillemets soit d'une masse conséquente. Mais toutes ces déductions et calculs ne vont pas faire avancer le problème, le JWST bouge et ne peut donc pas remplir sa mission. C'est là que votre serviteur entre en jeu. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie, mais vous vous doutez que je suis le genre de personne qui aidera à résoudre des problèmes techniquement complexes et ce, en toute discrétion. J'ai une carte de visite qui permet aux bonnes personnes de me contacter. Si vous ne l'avez pas, ne vous sentez pas offensé, peu de personnes l'ont. Le patron de la mission JWST m'a demandé d'aller voir ce qui pouvait bien squatter L2. Me voilà parti sur le point Lagrange L2 à bord du Vagabond Cosmique. Le voyage ne va pas durer longtemps, quelques heures à vitesse réduite, histoire de ménager le vaisseau. Son moteur a beau être une merveille de technologie, ça reste une pièce d'horlogerie fine, et entretenir tout ça demande des compétences bien particulières, et les bons mécanos se font rares. Donc voyage en propulsion classique. Après 6 heures de vol, me voilà en approche du point en question. Et comment dire ? Autant la position fournie par le contrôle de mission est juste, le JWST est là, autant repérer visuellement le « parasite », entre guillemets, c'est pas la même. Déjà dans l'espace, évaluer une distance, c'est chaud. Mais si en plus la cible est discrète, le télescope avec son bouclier thermique brille de mille feux, c'est pratique. L'autre, par contre, il me faudra une bonne heure pour le voir. Invisible au radar, il est de plus noir mat. Et je vais le découvrir alors qu'il va se trouver entre le télescope et moi. C'est qu'il est grand ce con. 30 mètres de long pour 22 de haut, si je peux appeler ça le haut, et 5 mètres d'épaisseur. Pour la forme, on s'approche vite fait d'une coque de cacahuète. J'ai rien de trouvé de plus approchant. Donc, l'objet est noir, mais séparé dans son épaisseur en deux par une ligne verte claire qui semble phosphorescente. Je l'appelle l'objet car ça ne ressemble pas à un vaisseau, ou du moins l'idée que je m'en fais. Pas de moteur apparent, pas de hublot, et encore moins de trappe d'accès, et aucune émission électromagnétique n'en sort. Mais rien n'y rentre non plus. Toutes les longueurs d'onde de mes instruments d'analyse se cassent les dents dessus. Bref, le mystère est total. De près, l'objet est impressionnant. Il est aussi grand que le Vagabond. Une fois que j'ai vérifié qu'il n'était pas radioactif, j'ai effectué une sortie extravéhiculaire histoire de l'examiner de très près. On a beau scruter un objet sous toutes ses coutures, on aime bien le toucher. Enfin, à travers les gants de la combinaison spatiale. La surface semble lisse, aucune texture particulière, aucune aspérité. Bon, je suis pas avancé là. En même temps, j'ai pas été payé pour savoir ce que c'est, mais pour le virer de là. J'aurai tout le temps de l'examiner dans le hangar orbital. Pour le dégager, rien de plus simple. Je vais lui fixer des nacelles de propulsion utilisées dans les chantiers spatiaux pour déplacer des gros éléments. La technique des remorqueurs de votre époque est un poil risquée. Relier deux objets dans l'espace peut vite tourner au drame, surtout quand on ne sait rien de l'objet à tracter. Il pourrait aussi bien partir dans la direction opposée à fond de cale et arracher le câble, voire un bout du vaisseau. Ou, et ça s'est déjà vu, commencer à faire des tonneaux autour de l'engin tracteur et le saucissonner comme un rôti. Décompression explosive garantie. Pendant que le Vagabond va suivre en pilote automatique la trajectoire vers la Terre, je dirigerai les nacelles, un peu comme une maquette radiocommandée. Une fois les nacelles fixées, j'entame la procédure de sortie du point Lagrange de l'objet. Je reste à bonne distance, au cas où. À mon grand soulagement, la procédure s'est déroulée sans accroc, et le télescope a pu retrouver la place qui lui était promise. Le voyage retour vers le hangar en orbite terrestre se fera sans problème, là encore à mon grand soulagement. Et voilà, l'objet est amarré dans le hangar, toujours aussi impassible. Ça, c'était une mission tranquille. Le radar. L'objet bouge? Ah non. Ça vient de plus loin. Il y a un truc qui approche. Et vite. Pour le moment, aucune idée de ce que c'est. D'ici quelques secondes, il sera à la portée des capteurs optiques. Bah, ça engage rien de bon tout ça. À votre époque, aucun vaisseau ne se déplace aussi rapidement, et surtout depuis cette direction. Il est passé tout près du point L2, ça commence vraiment à sentir mauvais. Ah, identification positive de l'objet. C'est bien un vaisseau. Ouais, j'aurais peut-être préféré un météorite. Donc recherche dans la base de données. C'est le Magellan. Ah merde. Après sa première expédition dans un monde parallèle qui s'était soldée par un bilan plus que mitigé, Josip Roman avait disparu. On sait qu'il était rentré dans notre monde, mais après, plus rien. Il y avait bien eu cette histoire d'artefact qui avait circulé. Josip, à peine rentré de la première expédition, avait décidé de persévérer dans sa recherche de la rencontre avec un grand R, mais de revoir son processus en profondeur. Plus question de faire appel à des collaborateurs humains, pas assez fiables. Tout son équipage serait composé de robots. Et un seul d'entre eux serait équipé d'une IA maître sous strict contrôle. Les autres auraient une IA esclave. Comme ça, pas de risque de rébellion robotique. Et donc, sa première expédition robotique serait menée sur le monde Sherman 12-3, Sherman étant la troisième planète du monde parallèle numéro 12. Le système de détection de feu Labarque avait détecté une zone fortement potentielle de rencontre. C'est un Magellan réparé au strict minimum qui va refranchir le portail intermonde avec à son bord Roman, Vasco, son premier assistant robotique, ainsi que A, B et E, les trois robots aux IA esclaves. Pour leur nom, Roman n'est pas allé chercher bien loin. Trois des premières lettres de l'alphabet, mais dont la prononciation ne pourrait jamais porter à confusion. Je vous avais dit que Magellan avait été réparé sommairement. Certes, mais Josip mettra un point d'honneur à démonter consciencieusement la garçonnière de Labarque pour en faire le local d'entretien des robots. Une sorte d'ultime pied de nez à son ancien associé. Arrivé sur le point estimé de la rencontre dans le monde 12.3, rien. Le système de détection de Labarthe était un prototype, mais surtout un outil de calcul de probabilité, ça ne donnerait donc aucune information garantie à 100%. La rencontre à laquelle a insisté Roman étant un phénomène difficilement descriptible et encore plus difficilement quantifiable, le système de détection est forcément flou dans ses analyses. Ce qui a agacé Roman à cette époque, c'est que Labarthe, fidèle à ses habitudes, s'était un peu avancé en annonçant un taux de probabilité proche des 75%. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager Roman, et il va rester fureté dans le secteur pendant quelques heures. Bien lui en prendra. Un objet va se dévoiler sur les écrans des capteurs du Magellan. De manière fugace au début, mais à force de persévérance, il va pouvoir l'accrocher au radar et ne plus le lâcher. S'en approchant avec difficulté, l'objet semblant vouloir fuir mais pas de façon ostentatoire, il va pouvoir enfin le voir de ses yeux. L'objet est étrange, même pour Roman, c'est dire. Il va faire une sortie en scaphandre pour aller au contact malgré les réserves de Vasco. Arrivé au plus près de l'objet, il est comme intimidé. L'objet est tout de même d'une belle taille, plus grand que le Magellan. Roman va le toucher, ça semble être une manie universelle, et va ressentir un petit je ne sais quoi. Rien à voir avec la rencontre avec un grand R, mais un sentiment de réalisation partielle, comme si l'objet lui disait qu'il était sur la bonne voie. Autant vous dire que ça suffit à convaincre Josip de l'emporter avec lui dans notre monde. Mais il y a un gros mais. Le système de portail intermonde est intégré au Magellan. N'ayant aucun matériel de rechange dans le vaisseau, il va falloir retourner dans notre monde pour faire des courses. Ça peut vous paraître étrange, mais Josip Roman a des principes. Tout du moins, un principe. Ne rien prendre dans un monde parallèle qui puisse être utile à une personne de ce monde en question. Principe envergure variable, vu qu'il envisage de ramener un objet assez volumineux. Je le soupçonne d'être un peu superstitieux. Ne pas provoquer le karma en volant dans un monde parallèle, espérant ainsi ne pas se faire voler par un explorateur d'un monde parallèle. Pourquoi pas? Mais il est méfiant. Et si quelqu'un venait lui prendre l'objet pendant son absence? Vous savez, un robot n'a pas besoin de respirer, boire ou manger. Roman va donc laisser sur place A et B pour veiller sur l'objet. En plus, les robots seront équipés d'une balise, comme ça ce sera plus simple de retrouver l'objet par ce biais. Roman repart donc laissant les deux robots reliés à l'objet par une sangle. Théoriquement, le voyage pour aller chercher le matériel ne devrait durer que quelques heures, mais abus de précaution ne nuit pas. Roman retourne donc dans notre monde, récupère ce qu'il faut et repart. Il est de retour sur place environ 10 heures après son départ. Au vu du spectacle auquel il assiste en arrivant, il va se demander s'il n'est pas parti beaucoup plus longtemps. Déjà sur les écrans radar, il détecte des mouvements étranges. L'objet est bien là, mais il semble être le centre d'une chorégraphie étrange. Deux échoradars tournent autour de l'objet à grande vitesse, selon des trajectoires qui semblent erratiques. C'est en approche visuelle que ce qu'il a vu sur les écrans prend forme réellement. A et B tournent autour de l'objet en s'envoyant des projectiles. Ces cons se tirent dessus. Roman avait armé ses robots au cas où un intrus tenterait de s'emparer de l'objet. Mais pas pour qu'ils se lattent la gueule mutuellement. Au moment où il tente de reprendre le contact avec les robots devenus fous, B explose. Distrait par la communication venant du Magellan, il avait tourné sa tête vers le vaisseau. Réflexe classique chez un humain, mais totalement superflu pour un robot. Il n'a donc pu éviter le missile envoyé par A. Vasco va réussir à maîtriser A et le ramener au bord du Magellan. Après examen de sa mémoire, Roman va se rendre compte que les deux robots vont décider que l'autre est un intrus qui vient voler l'objet. Et de fait, ils vont se combattre, pensant que l'autre est un voleur. Une altération de la programmation des robots est en cause. Altération venue de l'extérieur. Ce n'est pas simplement un bug propre aux robots. Un hypothétique bug qui aurait touché les deux robots en même temps, fort peu probable. C'est donc un signal étranger qui aura détraqué A et B. Pourtant, Roman n'avait détecté aucun signal dans les environs de l'objet avant de partir. Une étude plus poussée de A va révéler que le signal qui a corrompu les robots n'était pas forcément puissant mais très précis et dont la source ne se situait pas loin. La seule explication valable est que l'objet a piraté les pauvres robots. Il ne serait donc pas aussi inanimé qu'il paraît. Roman, qui se méfiait des hommes pour leur manque de fiabilité, leurs préjugés et leurs croyances en tout genre, voilà maintenant que même les machines lui font faux bond. Décidément, si Roman ne peut même plus compter sur ses robots, qui se fie alors ? Le robot A est désactivé, E voit sa protection logicielle renforcée et Vasco est restreint dans ses autorisations. Il devra constamment revenir vers Roman pour prendre ses ordres. Ce qui ne va pas faciliter la tâche de ce dernier. Deux robots en moins et deux autres ultra-dépendants qui vont quasiment le suivre à la trace comme des petits chiens. Autant dire que l'arnachement de l'objet va être compliqué. D'autant que Josip commence à douter. Il se demande, et on ne peut le blâmer pour ça, si ramener cet objet est vraiment nécessaire, qu'il pourrait suffire de l'examiner sur place. Les questions qu'il se pose et la lenteur de l'opération transforment les heures en jours. Ça fait presque une semaine qu'il est là à monter la cage autour de l'objet pour qu'une fois fixée sur le Magellan, elle ne fasse qu'un avec le vaisseau et surtout le système de voyage intermonde. Les sessions de travail sont compliquées, mais les nuits sont agitées. Josip, qui a toujours eu un sommeil calme, est en proie à des cauchemars. Il se voit sur une planète dévastée qui a visiblement subi une guerre totale. Il erre dans les décombres à la recherche d'il ne sait quoi, mais il cherche quelque chose, ou quelqu'un. Une silhouette déambule dans les ruines également, mais elle se dérobe constamment à la vue de Roman. Plus il s'approche d'elle, plus elle semble fuir. Et quand à force d'obstination il parvient presque à la rattraper, l'objet tombe du ciel comme par magie et l'écrase. Et chaque nuit, il court, esquive, feinte, mais à chaque fois l'objet lui tombe dessus. Mais ça y est, enfin, au bout de 10 jours, la cage contenant l'objet est finie, l'ensemble est prêt pour le voyage retour. La dernière nuit avant le saut va finir de déstabiliser Josip. Toujours le même rêve, les mêmes décombres, la même silhouette. Mais ce coup-ci, il parvient à éviter la chute de l'objet et il arrive à toucher la silhouette. Jusqu'alors, elle était toujours restée vague, aucun trait distinctif, juste l'esquisse d'un être humain. Mais ce coup-ci, elle se retourne, et son visage apparaît clairement. Isidore de la Malventrée. Son mentor, son associé, mais celui qui deviendra plus tard le responsable indirect de sa chute. Celui qui recherchera avec l'énergie du désespoir après sa disparition à bord du vagabond cosmique. Le voilà devant lui. Et tout d'un coup, ça lui paraît évident. Isidore, lui aussi, a fait la rencontre avec un grand R. Mais lui, il a compris le sens de ce qu'il a vu et a accepté cette rencontre. Il a embrassé ce à quoi il a assisté. Il n'avait pas l'esprit aussi viscéralement cartésien de Roman. Il a pu la vivre pleinement et non pas la subir. À son réveil, Roman a une révélation, une certitude. Isidore de la Malventrée est dans l'objet. Comment, pourquoi, il n'en sait rien. Ce n'est pas son problème. Mais il sait une chose, il va ramener l'objet pour montrer à ceux qui l'ont condamné que le marquis de la Malventrée est bel et bien vivant. Il va enfin pouvoir laver son honneur. Et malgré les avertissements de Vasco concernant la stabilité de la fixation de la cage au Magellan, il enclenche la procédure de transfert intermonde. Une seconde avant le transfert, Vasco va interpeller Roman en le tutoyant et en l'appelant par le surnom que lui avait donné le marquis. Ringel, la teigne en allemand. Plus de doute pour Josip, Vasco a été contaminé par l'objet lui aussi. Mais il est trop tard, le saut est accompli. L'ensemble vaisseau plus cage a tenu. Pas Vasco par contre. Non pas à cause du transfert, mais du projectile que Roman a tiré et qui a explosé sa cage thoracique. Pas question de voir un autre robot perverti pour se mettre en travers de son chemin. Bilan du transfert, le Magellan est intact, la cage aussi, mais elle est vide. Et pour cause, j'ai récupéré l'objet au point Lagrange il y a quelques heures de ça. Je n'ose imaginer la colère de Roman. Encore que, vu la vitesse à laquelle il fonce vers moi, j'ai ma petite idée. Ça a dû lui prendre un peu de temps pour le retrouver. Et j'en déduis donc qu'il peut lui aussi voyager dans le temps. Il faudra que je lui demande comment il s'est procuré un navigateur temporel. Mais ça, je verrai ça plus tard. Je vais d'abord essayer d'échapper à son éperonnage en règle. Bon, mon petit vagabond cosmique, il va falloir montrer de ce que tu es capable. C'est le moment de te distinguer.